9e séquence pour comprendre et débattre sur le thème de la mondialisation avec Paul Masson, qui est militant de l'éducation populaire et membre d'Attaque. Dans les précédentes séquences, Paul Masson s'est attaché à mettre en opposition la logique de service public à la française et une logique de marché. Aujourd'hui, Paul Masson a choisi de nous parler de l'Organisation mondiale du commerce, d'abord à travers l'histoire de cette instance internationale.
L'Organisation mondiale du commerce, si on veut réussir à comprendre, il faut revenir à la crise de 1929. Au moment de la crise de 1929, il va y avoir une faillite. Et la question, c'est comment éviter que les entreprises fassent faillite. Il va y avoir aussi une crainte. On est après 1917, il y a eu la révolution en Union soviétique. Comment éviter qu'on ait une révolution mondiale et que le capitalisme se casse la figure. Après-guerre, 1945, l'autre question qui va apparaître, c'est comment éviter les guerres mondiales. Et par rapport à ça, il va y avoir à l'échelle internationale la création de l'Organisation des Nations Unies qui dit, si on veut éviter ça, eh ben, il faut en gros que le politique conduise le monde et qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un souci de prise en compte à l'échelle du monde, par l'Organisation des États, d'une politique mondiale. Ce qui va caractériser la politique mondiale qui va se mettre en place à ce moment-là, c'est elle est fort marquée par les accords, c'est au départ les accords de Bretton Woods qui vont fixer ce cadre. Comment qu'on va faire pour accompagner politiquement l'organisation économique du monde? Et bien c'est à ce moment-là qu'on va créer le Fonds monétaire international, qu'on va créer la Banque mondiale. C'est-à-dire de dire à l'échelle internationale, il faut qu'on puisse agir sur l'économie. Et Keynes proposait un troisième pilier, c'était l'Organisation internationale du commerce. Avec une idée force autour de ça, si on veut avoir un monde organisé qui évite la guerre, qui évite les faillites et la révolution, il ne faut pas qu'on soit en permanence dans un affrontement entre les propriétaires du capital et le social. Et on va avoir au cours des 30 glorieuses, la période qu'on a appelée les 30 glorieuses, une sorte de consensus à l'échelle internationale autour de ce qu'on peut dire le modèle social-démocrate. Hein. C'est-à-dire, les patrons sont chargés de gérer les entreprises et de faire du profit sur ces entreprises. Il n'y a pas de remise en cause de ça. La contrepartie, c'est que le profit doit être réparti équitablement et qu'une part importante doit en revenir à ceux qui produisent la valeur, c'est-à-dire aux travailleurs. Et on arrivera à une augmentation du niveau de vie des travailleurs et les profits continueront d'exister pour les entreprises. C'est ce contrat-là qui va faire fonctionner l'économie mondiale, qui vont commencer d'organiser l'économie mondiale autour des 30 Glorieuses. Concrètement, au niveau de l'organisation du commerce, le secteur de l'organisation du commerce qui va se développer, ça va être le commerce sur les produits manufacturiers, et uniquement sur les produits manufacturés. Et en 45 ans, dans le cadre de 5 cycles de négociations, organisé essentiellement par les pays riches, les tarifs douaniers entre les pays vont baisser énormément puisqu'ils représentaient entre 40 et 50% et ils passent à 4-5%. C'est-à-dire qu'on va aller vers une baisse des tarifs douaniers qui va favoriser les échanges de produits manufacturés à l'échelle du monde.
Alors qu'est-ce qui va venir bousculer cette logique?
Alors on peut dire que ça va être la crise du pétrole qui va bousculer cette logique. Elle va bousculer cette logique. Pourquoi? Parce que du fait de l'augmentation du prix des matières premières, l'entreprise vont voir leurs bénéfices diminuer. Et donc, dans la mesure où ils vont voir leurs bénéfices diminuer, ils vont remettre en cause l'idée de donner davantage pour les travailleurs. Et au cours des années 80, on va avoir une autre logique qui va progressivement s'imposer à l'échelle du monde, c'est ce qu'on a appelé le consensus de Washington. Le consensus de Washington, ça a été des accords, essentiellement Nixon, c'était pour les États-Unis, et Thatcher au niveau de l'Europe, qui remettent en cause ça et qu'il le remplace par le modèle libéral. De dire, ouvrons le marché à l'échelle du monde, et remettons en cause ce modèle keynésien qui consistait, il faut qu'on se répartisse le gâteau d'une manière équitable entre ceux qui produisent le travail et ceux qui détiennent les capitaux. Donc il va y avoir une pression internationale pour que le modèle libéral remplace ce modèle de répartition plus juste des fruits de la valeur produite entre le capital et le travail. Le GATT, c'est-à-dire des accords généraux sur le tarif douanier, sur les commerces des produits manufacturés, qui étaient rattachés à l'Organisation des Nations Unies, sous le contrôle politique, va être détaché de l'Organisation des Nations Unies pour devenir une organisation indépendante qui s'appellera l'Organisation mondiale du commerce, qui sera détachée du corps de doctrine de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies, c'est un projet politique à l'échelle du monde. L'Organisation des Nations Unies va avoir une échelle de valeur. Les droits de l'homme, ça fait partie des Nations Unies. L'Organisation mondiale du commerce se détache de ce corps de doctrine. De dire, mais nous sommes une instance technique qui n'a rien à voir avec l'idéologie et notre raison d'être, ça va être de libéraliser l'ensemble du commerce mondial. C'est-à-dire qu'on passe du gap qui était libéraliser le commerce des produits manufacturés avec l'idée de libéraliser l'ensemble du commerce mondial.
Donc à partir de 1994, les accords de Marrakech et la création de l'OMC, comment est-ce que cette organisation évolue ?
Premièrement, l'OMC, lors du traité de Marrakech, ça se fait presque en douce, ça se fait tout seul sans qu'il y ait bien conscience de ce qui est en train de se produire. Et on va avoir pression des multinationales. Et une des premières actions qui vont être mises en place par l'OMC, ça a été ce qu'on a appelé l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement. C'est un projet qui avait pour but de protéger les entreprises qui s'installaient dans un pays. Une transnationale s'installe dans un pays. Le pays a des mouvements sociaux, le pays a des difficultés, l'entreprise ne réussit pas à rentrer dans ses bénéfices. L'AMI disait que le pays qui l'avait accueilli devait payer aux entreprises l'investissement qu'elles avaient mis. C'est le premier accord qui a été mis en place et en 1995, ce premier accord qui s'était fait en douce va être publié sur Internet. L'ensemble du texte qui devait passer va être publié sur Internet. Ce qui fait qu'on va avoir à l'échelle internationale une mobilisation, une première mobilisation par rapport à ça. Et l'AMI va finir par être mis en cause et l'échec de l'AMI, on le doit à l'intervention de Jospin, qui à l'Assemblée nationale décide le retrait de la France des négociations sur l'AMI. Le fait que la France ait pris une position claire en refusant a fait en sorte que cet accord, qui permettait aux multinationales d'exiger des pays chez lesquels ils s'étaient installés des dédommagements dans le cas où ils n'arriveraient pas à faire les bénéfices qu'ils escomptaient, c'est un premier pas du politique qui reprend pouvoir un petit peu sur cette puissance des transnationales. En 1999, alors cette fois, on aura la première manifestation internationale d'opposition à la marchandisation du monde. Mais 3 mois après Seattle, les négociations sur les services ont commencé de reprendre, plus ou moins en catimini. 2001, on va avoir à Doha, au Qatar, la mise en place du cycle, un nouveau cycle, le cycle du développement. Et alors, le cycle du développement met en jeu tous les secteurs de l'économie. C'est là que c'est annoncé que dans tous les domaines, il faut qu'on aille vers, je cite, la libéralisation la plus poussée. On est dans cette logique-là. L'objet de l'Organisation mondiale du commerce, c'est de faire en sorte qu'on ait une libéralisation le plus poussée de l'ensemble des secteurs de l'économie. L'étape suivante aura lieu à Cancun. Alors, à Cancun, il va se passer quelque chose aussi. On va avoir une pression sous forme de manifestation des opposants à la marchandisation du monde, mais on va avoir pour la première fois les pays du Sud qui marquent leur opposition à une organisation du monde qui favorise les pays du Nord. Et ça sera, ils vont bloquer dans le domaine de l'agriculture, et à Cancun, on aura un nouveau échec au sommet. Mais les négociations continuent, et la prochaine étape, c'est pour en décembre, à Hong Kong, où on va avoir de nouveau une réunion générale de l'OMC d'ici un mois. Mais ça sera l'objet d'une autre séquence.
Donc vous venez de nous apporter, Paul Masson, une perspective historique sur l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Qu'en est-il de la structure? Comment ça marche? Qui est-ce qui participe à cette OMC et comment?
Là, ça mérite de prendre une séance ou deux pour le détailler, parce que c'est quand même assez compliqué. J'y reviendrai.
Paul Masson, merci. Puis on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans Info 30, donc chaque mardi. Je rappelle une nouvelle fois aux auditeurs qu'ils peuvent laisser leurs questions, remarques à l'adresse suivante pfm@nornet.fr ou par téléphone 03 21 50 99 99. N'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur.